circulaire, c'est clair. La chronique économique, pas comme les autres. Diffusée sur Jet FM tous les deuxièmes mardis du mois à 18h45 et disponible en podcast sur jetfm.fr. 15 minutes d'informations, de témoignages et de musique. Venez découvrir comment réconcilier économie et écologie. Venez tester vos limites. Venez vous frotter à une nouvelle réalité. Circulaire, c'est clair. Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Après avoir parlé d'achat durable et d'éco-conception, je vous emmène aujourd'hui à la découverte d'un nouveau principe économique. Je vais vous parler d'un pilier méconnu de l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité. Effectivement, me direz-vous, jamais entendu parler. Et pourtant, ce pilier est aussi important que les autres. Sans économie de la fonctionnalité, pas d'économie circulaire. L'économie de la fonctionnalité, comme son nom l'indique, privilégie l'usage, la fonction, plutôt que la possession d'un produit. Pour une entreprise, cela peut être tout simplement de passer de l'achat d'un véhicule à la location. Ce système a plusieurs avantages. Cela permet à l'entreprise de limiter ses immobilisations et d'ajuster ses dépenses en louant le véhicule dont elle a besoin uniquement quand c'est nécessaire. Mais l'économie de la fonctionnalité va plus loin, car elle demande aux fabricants de repenser leur modèle économique et les incite à innover, à proposer des solutions intégrées autour de leurs produits. Et pour que l'on puisse véritablement parler d'économie de la fonctionnalité, ces solutions doivent atteindre trois objectifs. Une moindre consommation des ressources naturelles, un meilleur bien-être des personnes et un développement économique. Pour illustrer de façon plus large cette thématique, je me suis rendue chez Batipac, une entreprise située à Saint-Aignan-de-Grandlieu qui fabrique un panneau structurel isolant à base de carton appelé IPAC. Ok, mais là normalement, vous devez vous demander quel est le lien avec l'économie de la fonctionnalité. Car oui, le produit qu'il fabrique est éco-conçu, recyclable, réemployable, mais où est l'économie de la fonctionnalité ? Eh bien justement, M. Boiteau de l'entreprise Batipac que j'ai rencontré a ainsi passé 2 jours avec un représentant exclusif du club de l'économie de la fonctionnalité. Et le résultat est sans appel, la logique développée autour de son produit lui permet de respecter les 3 objectifs de l'économie de la fonctionnalité. Mais le mieux, c'est que je laisse M. Boiteau vous en parler lui-même.
L'économie de la fonctionnalité, c'est un concept comme l'économie circulaire qui, pour beaucoup de gens, reste un concept.
Tout à fait.
Parce que tout le monde dit bah ok, mais concrètement,
oui.
Voilà. L'IPAC, c'est vraiment un exemple concret de l'économie circulaire et de l'économie de la fonctionnalité. Voilà, on a un produit qui, dès le départ, est conçu pour son réemploi.
Mm-hmm.
On a un produit qui, dès le départ, est conçu pour être écologiquement ultra performant,
oui.
Biosourcé. Issu du recyclage, recyclable lui-même à 100%.
Oui, donc en termes de cycle de vie, pour le coup...
C'est parfait.
On est, voilà,
c'est
on
parfait.
Est très bien.
Pour avoir rencontré des gens de la Fédération de l'économie de la fonctionnalité, et son secrétaire notamment, on a un produit qui répond complètement à ça, c'est-à-dire que il est pensé pour toute sa vie... Et une deuxième vie et une troisième vie, oui. Sans le modifier. Oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, le bloc, il peut avoir 2 ou 3 vies. On y ajoute un volet sociétal très fort, puisque on confie la production de ces blocs à un public en difficulté. On a fait un choix très fort depuis le départ avec l'inventeur de mettre au point avec les ingénieurs une chaîne plus petite à taille humaine qui fait quand même 31 mètres de long, hein,
oui.
Et qu'on vient implanter dans des structures d'insertion par le travail.
D'accord.
Donc des structures d'insertion, alors ça peut être des entreprises d'insertion, hein, qui est une insertion un peu sociale, ça peut être dans des structures type ESAT ou EA, où on a un public avec un handicap physique, parfois mental. Alors effectivement, il y a aussi des structures qui malheureusement cumulent les 3 handicaps, social, physique, mental, voilà. Mais c'est un choix très fort de confier notre production à des structures d'insertion. De ce fait, l'idée et la stratégie de l'entreprise, c'est d'avoir un maillage du territoire.
Oui.
Et de se dire, nous on rêve, dans 10 ans, à se dire, voilà, vous faites une maison sur Nantes, eh bien, les blocs, ils ont été assemblés dans une structure d'insertion dans la région nantaise. Vous faites une maison ou un bâtiment de bureau ou un immeuble collectif avec de l'IPAC à Nice, eh bien, les blocs, ils auront été créés dans une structure d'insertion dans la région niçoise. C'est-à-dire que non seulement on confie la production et le travail à des personnes qui en ont besoin, voilà, que ça réinsère, mais en plus, on le fait au niveau local. Donc, je ne pense pas qu'on puisse faire mieux en termes de production et de localisation.
Souvent, quand on parle économie de la fonctionnalité, on entend en fait transformation de l'achat d'un produit à l'achat d'un service. Comment est-ce que vous inscrivez finalement dans cette démarche ?
Quelque part, c'est l'application la plus noble du concept, c'est de dire j'achète un bloc IPAC, je rends service à la société.
Oui.
Je rends service en termes écologiques, je rends service en termes sociétal. C'est-à-dire que j'achète une construction à un architecte avec de l'IPAC, et bien finalement, j'amène un mieux-être à mon environnement, qu'il soit environnement écologique, économique ou sociétal. Donc pour moi, c'est ça pour vous. Oui, bien sûr.
Oui, ouais. D'accord. Économie de la fonctionnalité, c'est aussi une certaine qualité de service. Est-ce que vous pouvez nous dire du coup ce que vous proposez à vos clients ? Alors, en amont, forcément, un produit, une technicité de mise en œuvre. Et après, durant la durée de vie du produit, est-ce que vous proposez des choses particulières de suivi, justement de garantie, par exemple ?
Aujourd'hui, parce qu'on est quand même une structure assez jeune, parfois les moyens humains sont un peu limités, hein, donc on ne peut pas aller au bout de ce qu'on voudrait, mais déjà on forme gracieusement les professionnels qui veulent employer notre matériau, donc c'est un signe fort.
Oui.
C'est-à-dire qu'on les accueille ici, vous avez vu l'atelier de formation.
Oui.
Hein, donc ils viennent une journée avec nous et puis on leur explique, on les forme, et ça c'est gratuit. Voilà. Ça c'est un élément fort. Parfois on se déplace pour faire des formations sur site pour accompagner les professionnels dans leur première réalisation, c'est-à-dire que on essaye de travailler en amont avec les architectes ou les maîtres d'œuvre pour vraiment les aider à optimiser le produit. Et puis quand le produit il est choisi, il est validé techniquement, eh bien on va accompagner l'entreprise pour la mise en œuvre sur son premier chantier ou ses deux premiers chantiers. Voilà. Donc ça, c'est un service important. Évidemment, on a des idées, mais je pense que c'est le développement du produit qui fera qu'on ira au bout de tout ça.
D'accord. Voilà. Très bien. Et puis aussi, au niveau du service que vous disiez tout à l'heure, pour moi, c'est quand même important, le fait que vous utilisiez... Le fait que vous fonctionniez avec des ESAT ou des structures de la même façon, qui soient locales, même si ça ne rend pas directement le service au client final, n'empêche que ça rend service à son environnement immédiat et au développement économique aussi sur le territoire. Donc pour moi, ça fait partie intégrante de l'économie de la fonctionnalité.
la construction et le bâtiment, c'est une des sources les plus importantes,
oui.
Hein, de la pollution mondiale. Mmh. Alors même si en Europe et en France, on est quand même un petit peu mieux organisé que dans certaines zones, mais malgré tout, ça reste très polluant.
Mmh. Hein,
le ministère a des chiffres là-dessus qui sont éloquents. Hein. On dit que pour une maison avec un système de construction traditionnel, par exemple par pain, laine de verre ou quelque chose comme ça, il faut 200 tonnes de sable pour une maison classique.
Voilà. Oui.
Je disais au maire d'une commune du littoral l'autre jour, ça me fait bizarre quand même le lotissement que vous êtes en train de faire à tel endroit. Parce que vous avez 20 maisons qui sont en construction, je suis allé voir, et ben, quand on fait 20 maisons fois 200 tonnes de sable, c'est comme si vous aviez pris une pelleteuse pour aller
creuser
la plage qu'on aime tous.
Oui.
Et là, il m'a regardé et j'ai senti qu'il y avait une forme de prise de conscience. Il n'avait pas vu ça.
Mmh.
Mais quand on dit des chiffres comme ça, parce qu'il l'a fait, hein, avec sa calculatrice devant moi, 20 fois 200. Et quand il a vu le tonnage de sable que ça représentait, il a vu que ça faisait disparaître une grosse partie de sa plage municipale.
Voilà. Et quelle est la part, justement, de ces aspects développement durable et intérêt sociétal dans le succès, finalement, de vos produits ? Qu'est-ce que vous diriez par rapport au volet économique qui, souvent, malgré tout, remporte la palme ?
Eh bien, on est très surpris au quotidien. Très surpris au quotidien. Évidemment, l'entrée... c'est quand même assez souvent les aspects techniques. On voit des collectivités notamment qui aujourd'hui veulent construire propre et ne veulent plus entendre parler de certains modes constructifs ou de certains produits. Et qui sont très innovants, qui cherchent vraiment à faire autrement. Et les clés d'entrée, c'est souvent le côté bilan carbone, problèmes environnementaux, recyclage, etc.
Ça veut dire que dans les critères de choix lors des appels d'offres, etc., les critères environnementaux ont repris un peu de vigueur.
Bien sûr. Et puis il y a des chantiers emblématiques. Hein. Paris 2024, c'est quand même emblématique à ce niveau-là. Hein.
Oui.
C'est très fort ce que fait la France, ce que fait le comité olympique. Mm-hmm. C'est très très fort. C'est quelque chose qui n'a encore jamais été fait d'avoir de telles exigences environnementales dans la construction.
Mm-hmm.
Donc ça, il faut le saluer. Voilà. Et puis, on s'aperçoit aussi, enfin moi je le vis au quotidien, que notre aspect aussi production confiée à des structures d'insertion est très très important pour bon nombre de décideurs.
Mmh.
Et pas que. On a des gens qui font le choix pour leur construction d'une maison de produits IPAC aussi par ce volet environnemental et sociétal. C'est-à-dire que la relocalisation industrielle, c'est un sujet en ce moment.
Oui.
Mais nous, on va plus loin, c'est-à-dire qu'on dit, mais c'est pas relocalisation française, c'est dans votre région, par les personnes qui en ont besoin. Et on voit des gens très sensibles à ça. Donc les clés d'entrée, elles sont multiples en fait.
Ouais. D'accord.
Elles sont multiples.
Voilà, vous savez tout ou presque sur l'économie de la fonctionnalité. Et avouez-le, ce principe économique est particulièrement intéressant à réfléchir car il ouvre des portes énormes en termes de marché et de développement. Je vous laisse y réfléchir. Pour ma part, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Circulaire, c'est clair sur Jet FM 91.2 ou sur jetfm.fr. À bientôt!